France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Sacha Mattei et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. C'est le dernier épisode de notre série consacrée au peuple kurde qui, partout où ils vivent, se trouve sous pression des États. En Syrie, a commencé vendredi dernier, si le cessez-le-feu se maintient, un processus d'intégration de ce qui était depuis 2012 une région autonome, le Rojava. Cela a nécessairement des répercussions pour les Kurdes des pays voisins, et notamment en Turquie, où une drôle de paix s'était instaurée entre l'État et le PKK depuis l'appel, il y a un an, du chef du mouvement des travailleurs kurdes, Abdullah Öcalan.
Le PKK a abandonné son objectif d'État-nation. Et en abandonnant cet objectif fondamental, il a également abandonné sa stratégie de guerre, mettant fin à son existence. C'est une transition volontaire de la phase de la lutte armée à la phase de politique démocratique et de droit. Cela ne devrait pas être considéré comme un échec, mais plutôt comme une réalisation historique.
Nous saluons respectueusement tous ceux qui ont été témoins de notre action démocratique et historique. Sur la base de la promulgation de lois d'intégration démocratique, nous déposons librement nos armes en votre présence.
Mes chers amis, mon cher peuple, depuis hier, le fléau du terrorisme qui dure depuis 47 ans a, Dieu merci, commencé à toucher à sa fin. La Turquie a commencé hier à refermer une page longue, douloureuse et remplie de larmes.
La question kurde ne serait donc qu'une question sécuritaire d'après Recep Tayyip Erdogan, comme si l'identité kurde, qu'elle soit ou pas liée au PKK, ne pouvait que menacer l'État central ou l'État-nation. Il est vrai que les 40 ans de lutte armée qui ont opposé le Parti des travailleurs kurdes à l'État turc ont fait entre 40 et 50 000 morts. Mais il y a un an, le chef du PKK, Abdullah Öcalan, annonçait la dissolution du mouvement et appelait ses combattants à déposer les armes. Cette déclaration du 27 février 2025 devait ouvrir la voie à des négociations avec le pouvoir turc, encouragé par ailleurs et de façon inattendue par le parti d'extrême droite allié de Recep Tayyip Erdogan. Mais depuis, le processus est au point mort. Rien pour réintégrer les combattants du PKK dans la vie civile, aucun geste non plus envers tous ces élus kurdes emprisonnés pour terrorisme entre guillemets et remplacés dans leur ville par des administrateurs. Le 6 janvier dernier, Selahattin Demirtas, ancien coprésident du Parti démocratique des peuples, était quant à lui condamné une nouvelle fois pour insulte au président. Lui qui s'est toujours dit opposé à la violence écope d'une peine d'un an de prison qui s'ajoute aux 42 déjà prononcés. Et c'est dans ce contexte que tout près des villes kurdes du sud-est de la Turquie, côté syrien de la frontière, des bataillons kurdes ont dû d'abord se battre début janvier contre l'armée régulière syrienne, puis signer l'accord dont nous parlions lundi qui met fin à l'autonomie du Rojava. Alors dans quelle mesure le destin des Kurdes de Turquie est-il lié à ceux de Syrie? Cette nouvelle situation syrienne, certes fragile, aura-t-elle des conséquences sur le processus dit de résolution, comprendre de dissolution du PKK? Nous en parlons ce matin avec notre invité. Bonjour Hamid Bozarslan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue à Culture Monde. Vous êtes historien et politiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, et vous avez entre autres dirigé l'ouvrage collectif « Histoire des Kurdes, des origines à nos jours » paru aux éditions du CERF. Alors, vous venez conclure notre série Hamid Bozarslan sur les Kurdes face aux États, durant laquelle on a évoqué la situation actuelle des Kurdes d'Iran, très engagés dans les mobilisations contre la République islamique, des Kurdes d'Irak qui ont repris les livraisons de pétrole mais à l'issue d'un accord avec Bagdad qui leur est assez peu favorable, et surtout les derniers développements en Syrie où l'État central en la personne du président Ahmed al-Shara a repris la main sur le Rojava. Ces événements, Hamid Bozarslan, ont-ils des répercussions immédiates pour les Kurdes de Turquie?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a des répercussions immédiates. Et pour comprendre ces répercussions immédiates, il faudrait sans doute prendre en considération d'abord l'histoire du XXe siècle, en deuxième lieu, l'histoire des 15 dernières années. Marcel Clerget avait publié dans les années 1920 une remarquable carte de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Et on voyait que cette frontière, qui a été tracée totalement arbitrairement, a divisé des centaines d'entités, des villages, des villes, des tribus, des confréries, et tout d'un coup, effectivement, on a assisté à une militarisation d'une frontière qui n'existait pas. Et cela, pour les Kurdes, a été effectivement extrêmement important, une sorte de rupture à plusieurs échelles de la géographie kurde, mais aussi de l'anthropologie kurde, de l'existence même des Kurdes. Et aujourd'hui, en Syrie, on a trois zones kurdes qui sont déconnectées les unes des autres, mais qui sont dans la continuité directe avec la Turquie. Avec le Kurdistan de Turquie. Donc, effectivement, historiquement, le Kurdistan syrien fait partie, en quelque sorte, est dans la continuité de Kurdistan de Turquie. En deuxième lieu, il faudrait se rappeler ce qui s'est passé en 2014-2015, lorsque l'État islamique commença à régner sur 300 000 km² à cheval entre la Turquie, entre l'Irak et la Syrie. Et durant cette période-là, le président Erdogan, que vous avez mentionné, avait adopté une politique pour le moins très clément à l'égard de l'État islamique pour anéantir l'existence d'une entité kurde qui commençait à voir le jour. Et Kobané était devenue un peu la ville symbole de cette résistance. L'État islamique a été brisé à Kobané.
Ville de Kobané, voilà. Vraiment près de la frontière,
vraiment
d'ailleurs,
dans
avec la Turquie.
Continuité aussi de la frontière. Donc, je crois qu'effectivement, pour l'ensemble de ces raisons, le Rojava est extrêmement important pour les Kurdes de Turquie. Et on a vu une mobilisation extraordinaire se mettre en place, déjà au Kurdistan irakien, que ce soit à Souleymane ou à Erbil, mais aussi en Turquie, une mobilisation présentant le Rojava effectivement comme le point névralgique de l'avenir même des Kurdes de Turquie. Et la diaspora s'est mobilisée, la diaspora kurde en Turquie, en Europe, est essentiellement issue de la Turquie, même s'il y a aussi des communautés d'Irak, d'Iran et de la Syrie. Mais la diaspora a montré vraiment une très grande mobilisation pour le Rojava.
Mobilisation, vous le rappeliez, à la frontière aussi, vraiment côté turc de cette frontière avec la Syrie, où ont eu lieu dans les jours qui ont précédé l'accord entre Al-Shara et le parti kurde du PYD, PYD donc en Syrie, des rassemblements convoqué en Turquie par le parti DEM, DEM, parti pro-kurde, troisième force au Parlement, médiateur par ailleurs dans le processus engagé en ce moment entre Ankara et les PKK. Comment se sentent-ils liés, ces responsables du parti DEM, avec les responsables du Rojava? Quel lien existe?
Ces liens sont à la fois des liens de l'inséparabilité et de l'irréductibilité. Le mouvement kurde a toujours été un mouvement unifié depuis les années 1920, symboliquement unifié, à travers des continuités aussi. Les frontières ont toujours été transgressées en quelque sorte par les Kurdes, puisqu'effectivement pour les Kurdes, ces frontières sont des frontières totalement artificielles. Et donc de ce point de vue-là, il y a toujours une continuité. Mais de l'autre côté, on parle aussi d'une histoire de 100 ans, de division, de séparation, ça veut dire des cultures politiques différentes, des histoires différentes. Les Kurdes de Syrie inévitablement regarderont du côté de Damas, alors que les Kurdes de Turquie ont Ankara pour interlocuteur. Donc on a vraiment un phénomène à la fois de l'inséparabilité, ça veut dire que les Kurdes ne considèrent pas les Kurdes de Syrie comme une entité à part, et de l'autre côté, irréductibilité, parce qu'il y a finalement une société kurde de Syrie, une société kurde de Turquie, avec chaque fois ses propres spécificités.
Et est-ce que la lutte armée, est-ce que le lien se fait pour ce qui concerne la lutte armée entre les Kurdes de Syrie et ceux de Turquie? Dans les années 90, une grande partie des cadres du PKK ont été recrutés et formés en Syrie. Öcalan lui-même et ses cadres avaient d'abord installé leur base opérationnelle en Syrie avant de se réfugier dans les montagnes du Kurdistan irakien, et puis d'être arrêté en ce qui concerne au Kenya en 99. Il est toujours en prison. C'est de là qu'il a lancé son appel, sur lequel on reviendra longuement avec vous, Hamid Bozarslan. Est-ce que lors des affrontements qui ont opposé l'armée syrienne, disons régulière, et les forces démocratiques syriennes à dominante kurde, est-ce que le PKK turc a d'une manière ou d'une autre tenté d'aider les FDS dans ses face-à-face dans le nord et le nord-est de la Syrie? Est-ce qu'il a des hommes sur place toujours? Est-ce qu'il a envoyé des armes?
Il y a des hommes sur place. Effectivement, le PKK est présent dans la région, mais il faudrait aussi préciser que l'essentiel des forces kurdes syriennes sont des Kurdes syriens. Ce point-là est très très important. Ça veut dire que même si le PKK puisse donner une impulsion idéologique, même si le PKK puisse avoir, selon les estimations, quelques 1500 combattants sur le terrain, l'essentiel des forces kurdes, qu'on estime maintenant à 50-60 000 hommes et femmes, viennent du Kurdistan syrien.
Syrien, ce sont les Syriens.
Mais ce qu'on a pu observer à la faveur de cette crise, c'est que des milliers de Kurdes d'Irak se sont portés volontaires pour aller se battre dans le Rojava. Heureusement qu'on n'en est pas arrivé là. Heureusement qu'il y a eu effectivement ce cessez-le-feu qui, pour le moment, semble tenir et le processus d'une intégration qui préservait une autonomie ad minima est en place. Donc ces combattants n'ont pas eu à se battre dans le Rojava. Mais je pense qu'effectivement, s'il y avait un scénario de guerre prolongée qui devait se présenter, dans ce cas-là, non seulement des Kurdes de Turquie, mais très probablement aussi des Kurdes d'Irak participeraient.
Certes, cet accord reste fragile, mais comme vous le dites, le cessez-le-feu pour l'instant tient. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Recep Tayyip Erdogan est aujourd'hui un allié de cette nouvelle direction syrienne qui a renversé Bachar al-Assad il y a maintenant plus d'un an. Qu'est-ce que cela préfigure, cette simple alliance? Qu'est-ce que ça préfigure de bouleversement qui concerne d'abord les Kurdes, qu'ils soient syriens, qu'ils soient turcs, irakiens, iraniens, cette nouvelle donne, qu'est-ce qu'elle change pour les Kurdes de la région?
Je pense que ça change beaucoup de choses, mais ça change aussi beaucoup de choses pour la Syrie. Parce qu'effectivement, on parle aujourd'hui de l'existence d'une armée syrienne. Il n'y a pas d'armée syrienne. C'est qu'on mentionne comme armée syrienne est constituée en effet de 17-18 milices. Une partie de ces milices dépend directement de Turquie. Une partie de ces milices est tout simplement en quête de butins de guerre. Donc effectivement, tant que ces milices ne sont pas démantelées, on peut très difficilement envisager la constitution d'une Syrie qui serait légale, d'un État syrien qui serait légal et rationnel. On est vraiment dans une situation extrêmement grave et de ce point de vue-là, il faudrait tirer les leçons de la guerre civile libanaise, des deux guerres civiles irakiennes. L'existence des milices et l'existence d'un État légal et rationnel sont tout simplement incompatibles. Donc il faut démanteler les milices. Et la Turquie, de ce point de vue-là, est très présent sur le terrain. Les armes qui ont été utilisées, c'était des armes de Turquie. Une partie de la stratégie aussi a été déterminée par la Turquie.
La Turquie, aujourd'hui très active d'ailleurs pour contribuer à former cette armée syrienne, s'est proposée, je crois, y compris en Turquie, dans des centres de Turquie, d'accueillir des militaires pour les former. Elle est très active auprès de son homologue syrien, son nouvel homologue syrien Ahmed Al-Shara. Et en effet, aujourd'hui, l'armée syrienne va devoir intégrer, en tout cas ces forces kurdes vont devoir s'intégrer à une armée qui compte déjà plein de forces qui les ont combattues toutes ces années, y compris donc des milices liées à HTS, donc milice islamiste, et des milices pro-turques liées à Ankara. Donc tout ça s'annonce compliqué, à tout le moins pour les Kurdes. Allez-y,
c'est extrêmement compliqué pour le moment. Effectivement, l'ultimatum d'Erdogan, mais aussi l'ultimatum initial de Al-Shara, c'était que les Kurdes dissolvent totalement leur unité militaire et intègrent l'armée à titre individuel.
Oui.
Et je crois qu'effectivement, là, il y a eu une résistance kurde. En tout cas, pour le moment, la décision a été prise de les intégrer en tant qu'unité. Donc, ils ne vont pas perdre, se dissoudre en quelque sorte dans l'armée, mais vont garder une identité. Il y avait une deuxième condition, parce que les combattants kurdes sont accompagnés des combattantes kurdes. Effectivement, il y a une participation très massive des femmes kurdes dans la résistance contre l'État islamique. Et Ahmed Al-Shara ne voulait absolument pas entendre parler d'une soldate syrienne, a fortiori kurde. Et finalement, ces unités féminines seront aussi préservées.
Donc ça, c'est nouveau, parce que quand on en a parlé lundi, c'était encore très très incertain. Donc
voilà.
Ça s'est dessiné
ces derniers jours. En tout cas, selon la déclaration des responsables kurdes syriens, cela sera le cas. Et il y a eu hier le début du processus d'intégration des forces sécuritaires, Qamishl. C'était très intéressant. Qamishl, c'est la ville la plus importante. Et au nom des Kurdes, il y a eu une femme policière et un homme policier qui ont pris la parole. Du côté de Damas, il y avait un seul homme qui a commencé en évoquant le nom de Dieu, alors que dans le discours kurde, effectivement, cette mention ne figurait absolument pas.
Le nom de Dieu, c'est ça. Les Kurdes ne font pas référence à Dieu dans leur discours politique.
C'est qu'il ne veut pas dire qu'ils ne soient pas croyants, mais voilà, dans le discours politique, effectivement, ces mentions-là sont totalement absentes. Là aussi, peut-être qu'on est chez Kant.
C'est quand même important de le rappeler dans la mesure où Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui parle d'intégrer les Kurdes dans l'État-nation turque, y compris au nom d'une forme de fraternité islamique, de la Oumma. On y reviendra. Alors, pour faire le lien et cette transition entre les Kurdes de Syrie, ce qui sont en train de vivre, et ceux de Turquie, il se trouve qu'un responsable du PKK en Turquie s'est inquiété de ce qu'il considère être un revers pour le processus de paix avec les combattants du PKK. Pour lui, ce qui se passe en Syrie, cet accord trouvé vendredi, cette intégration, une autonomie vraiment minimale garantie pour les Kurdes du Rojava, c'est un revers pour le processus qui est en cours entre combattants du PKK et l'État. Pourquoi ? Quels effets directs sur le processus de discussion engagé entre le parti des travailleurs turcs et Ankara depuis l'appel d'Öcalan à déposer les armes ?
Je pense que la question principale pour les Kurdes d'une manière générale, c'est la question de la reconnaissance. Et là aussi, vous avez mentionné Kant. C'était l'émission qui a précédé celle-ci. Kant, dans son remarquable texte qui s'appelle « Qu'est-ce que la lumière ?», définit la lumière comme le processus de sortie de l'état de minorité pour devenir majeur. Qu'est-ce que ça veut dire majeur ? Le majeur, c'est libre et responsable. Et donc, le combat kurde en Syrie, c'était précisément ce combat de sortir de statut de mineur dans lequel ils étaient confinés pour devenir majeur. Devenir majeur, ça veut dire effectivement exprimer une volonté collective, exister en tant que sujet collectif pour pouvoir lire leur propre histoire, se projeter dans l'avenir, définir les altérités et devenir constructeur d'une Syrie nouvelle. Aujourd'hui, il est évident qu'on est très très loin de cette perspective. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui la constitution d'un émirat islamique en Syrie, ce qui est absolument incompatible avec le projet kurde, quel que soit le projet d'ailleurs, puisque la société kurde syrienne est aussi plurielle. Et qu'est-ce qui empêcherait effectivement la Syrie de devenir un empire de milices étalé dans la durée? Donc effectivement, pour les Kurdes, le revers est là.
Ce sont des projections pour l'instant, parce qu'on peut à l'inverse opposer qu'il y a quelque chose d'universel à vouloir construire ensemble une Syrie unifiée, entre guillemets.
Et bien sûr, bien sûr. Effectivement, le projet de l'autonomie kurde n'est absolument pas contradictoire avec le projet d'une Syrie unifiée. Je pense que là, il faut être absolument clair, la décentralisation ne signifie pas l'absence de l'État central. Ça signifie tout simplement que le pouvoir est exercé, le pouvoir est défini, est exercé à divers niveaux, à diverses échelles. Donc effectivement, la capitale exerce le pouvoir, mais les provinces exerce aussi le pouvoir, les communautés exercent aussi le pouvoir. Donc toute la question c'est, est-ce qu'on définit le pouvoir comme quelque chose de totalement organique, qui ne laisse aucune place de décision à des communautés y compris confessionnelles, mais aussi à des pouvoirs locaux, ou est-ce que le pouvoir peut se diffuser en quelque sorte et se démultiplier.
Mais en quoi est-ce que ça peut avoir des effets immédiats pour les Kurdes de Turquie ? Est-ce que ça veut dire que de nombreux Kurdes de Turquie espéraient encore obtenir une forme de statut d'autonomie comme en bénéficiait le Rojava depuis 2012 ?
En tout cas, le respect de l'autonomie de Rojava. Je pense qu'effectivement, là, c'est la question aussi de la dignité, la question de la confiance. Donc, comment on peut faire confiance à Erdogan ou à Al-Shara après cet épisode militaire? Donc, je pense que cette question de la dignité, cette question de la confiance, cette question de pouvoir construire l'avenir différemment. Parce que les Kurdes de Turquie, pour le moment, n'ont pas formulé de projet d'autonomie. Tout ce qu'ils souhaitent, effectivement, c'est de renforcer les pouvoirs locaux. Le projet de l'autonomie était limité au cas syrien, mais ce projet, effectivement, n'a pas été respecté par Al-Shara et son patron, Thierry Erdogan.
Alors, encore une fois, les événements en Syrie pourraient avoir, c'est ce dont s'inquiètent beaucoup de Kurdes de Turquie, des répercussions immédiates sur ce qu'on appelle le processus en Turquie, quand on n'a pas besoin de développer, tout le monde sait en Turquie de quoi il s'agit. C'est vraiment ce processus de discussion qui est censé s'être enclenché entre le PKK d'un côté, le parti des travailleurs du Kurdistan l'État central Recep Tayyip Erdogan, depuis le discours, depuis sa cellule de prison du 27 février 2025, donc d'Abdullah Öcalan, ça fait bientôt un an qu'il a appelé à la dissolution du PKK qu'il a lui-même créé en 78. Presque six mois plus tard, au mois de juillet, une trentaine de combattants organisaient une sorte de cérémonie de désarmement. Comment elle s'est déroulée, cette cérémonie, Hamid Bozarslan? En quoi ça consiste, cette cérémonie de désarmement dans les montagnes du Kurdistan irakien, qui est en fait finalement pour l'instant la seule qui ait eu lieu.
Qui est le seul qui a eu lieu. Et je crois que le lieu était symboliquement très important. Voilà, effectivement, au Kurdistan irakien, on est chez nous. Donc, effectivement, cette idée d'établissement de l'unité de Kurdistan de ce point de vue-là était très remarquable, tout à fait remarquable. Et puis, en deuxième lieu, les combattants et les combattantes kurdes, une fois de plus, je souligne ce fait-là, décident de détruire leurs armes en disant qu'une page historique est terminée. Et je pense que quel que soit l'avenir de la Syrie, on peut difficilement imaginer aujourd'hui le PKK de reprendre les armes. Une page historique est terminée. Cela veut dire quoi? Le PKK a été formé à une époque où la guerre de Vietnam s'était terminée il y a seulement 3 ans, où il y avait encore les guerres de décolonisation en Afrique, où l'idée de la révolution, de la violence révolutionnaire avait une grande légitimité. L'Amérique centrale entrait dans un processus révolutionnaire avec la révolution du Nicaragua. Donc, la grammaire politique de cette époque-là permettait d'envisager une guérilla, une lutte armée prolongée, alors que le contexte d'aujourd'hui, des années 2010-2020, ne se prête pas du tout. Donc, effectivement, une page historique est terminée. Une page historique est terminée aussi pour une deuxième raison, c'est que la société kurde a énormément changé au cours des 40-45 dernières années.
On va prendre le temps de le raconter, Hamid Bozarslan. C'est vrai que juste après cette cérémonie de désarmement, le PKK a parlé d'une opération historique et démocratique. De son côté, Recep Tayyip Erdogan se félicitait d'un processus engagé à l'initiative de son allié, le MHP, ou Parti d'Action Nationaliste, le grand parti d'extrême droite turque.
İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de tarihi çağrısıyla.
Avec l'appel historique de notre partenaire d'alliance, Monsieur Devlet Bahçeli, nous avons pris une série de mesures pour réaliser notre projet d'une Turquie sans terrorisme. Nos services de sécurité ont travaillé en parfaite coordination. Nous avons mené un processus très délicat et très prudent afin de tirer parti de cette opportunité qui s'est présentée à notre pays. Comme vous le savez, l'organisation terroriste a également répondu à l'appel d'İmralı et a convoqué son congrès pour annoncer sa dissolution. Hier, l'organisation a mis en œuvre la décision qu'elle avait prise, notamment en organisant une cérémonie pour déposer les armes.
Alors on va évoquer le choix des mots dans ce discours d'Erdogan du 12 juillet dernier, la conception de l'État-nation qu'il défend en traitant la question kurde systématiquement sous l'angle sécuritaire. Mais d'abord, Hamid Bozarslan, pour bien comprendre ce qui s'est passé après cette cérémonie de désarmement, que sont devenus les 30 à peu près combattants qui ont rendu les armes? Et cette cérémonie a-t-elle été suivie par d'autres, peut-être moins médiatisées, ou pour l'instant c'est complètement à l'arrêt?
Non, pour le moment c'est complètement à l'arrêt. Pour le moment c'est complètement à l'arrêt parce que du côté de la Turquie, il n'y a eu absolument pas de réponse. Le PKK a expliqué à plusieurs reprises que le retour à la violence, à une contestation armée, était hors de... était totalement exclu dans le contexte actuel. Donc, de ce point de vue-là, l'existence, la présence continue du PKK ne signifie pas le retour à une lutte armée, d'autant plus que le PKK n'est plus de toutes les manières dans une lutte armée depuis au moins 10 ans, en tout cas dans le contexte de Turquie. Donc, il y avait effectivement une demande de reconnaissance déjà des Kurdes en tant que communauté, parce que le discours de l'État continue à présenter la question kurde, associer la question kurde uniquement au terrorisme. La dissolution de PKK est vue comme la victoire historique d'Erdogan qui aurait terminé avec une période de 47 ans de terrorisme, alors qu'on sait que la question n'est absolument pas une question de terrorisme, c'est une question de reconnaissance des Kurdes en tant que communauté nationale, en tant qu'un sujet collectif, en tant qu'une communauté qui s'exprime désormais plus du tout par les armes, mais qui s'exprime par la voix parlementaire, qui s'exprime par la voix municipale, qui s'exprime par la création artistique, par la création scientifique. Donc voilà, effectivement, de réduire cette question à la question du terrorisme, c'est quelque chose qui n'est absolument pas accepté. Mais il y a eu aussi un manque total, disons, de réponse. Que vont devenir les combattants du PKK? Est-ce qu'ils vont être intégrés? Est-ce qu'ils vont être amnistiés? Est-ce qu'il va y avoir un cadre d'accueil en Turquie? Est-ce que les leaders pourront rester au Kurdistan irakien ou partir ailleurs? Quel sera le statut de Öcalan? Donc, toutes ces questions-là n'ont pas été évoquées, pour le moment en tout cas, par la Turquie.
Le chef du renseignement turc, İbrahim Kalin, est en train de travailler dessus. Une loi de retour au pays est censée être bientôt présentée. Et qui comment fonctionnerait-elle? Est-ce qu'il s'agirait aussi d'accorder une forme de statut à ces combattants désarmés du PKK en fonction du rôle ou de la fonction qu'ils ont pu occuper dans des unités? Enfin, qu'est-ce qui est dessine pour l'instant?
On ne le sait pas du tout. Effectivement, concernant les cadres dirigeants du PKK, sans doute eux, ils ne vont pas rentrer. Donc, ils vont rester soit au Kurdistan irakien, soit effectivement trouver d'autres solutions. Les autres vont retourner à la vie civile. Donc, il est question qu'ils retournent à la vie civile. Donc, ils n'auront pas du tout une place dans l'organigramme de l'État, à quelque niveau que ce soit. Il est aussi question d'améliorer les conditions de détention de Abdullah Öcalan, donc le leader du PKK, voire de lui permettre de sortir de la prison, parce qu'effectivement, la loi turque le permet, et les lois européennes aussi le permettent. Donc, énormément de choses sont discutées. Mais la question principale reste que... pour les Kurdes, non, effectivement, leur cause, c'est pas la cause du terrorisme. Pour les Kurdes, effectivement, il y a une cause nationale. Cette question nationale existe depuis plus de 100 ans. Il y a eu des révoltes kurdes dans les années 1920 et 30. Il y a eu des politiques de négation de l'existence même des Kurdes pendant une très longue période. Il y a eu des politiques de répression, la dévastation des villages, destruction des villages. Donc la question, c'est précisément de se faire accepter comme un sujet collectif
en Turquie. De faire en sorte que cette question kurde ne soit plus envisagée seulement sous l'angle sécuritaire de lutte contre le terrorisme, ce Kurdistan turc, c'est le mot est abusif puisqu'il n'y a pas de Kurdistan turc au sens propre, mais des territoires dans l'est et le sud majoritairement kurdes, perçus comme menaçant l'État central qu'il conviendrait d'administrer à travers une politique sécuritaire davantage qu'une politique de développement économique. Ces régions d'ailleurs sont parmi les plus pauvres du pays. C'est aussi la conception du MHP, le Parti d'Action Nationaliste, la plus grande formation politique d'extrême droite turque qui est à l'initiative de ce plan. Et pour tous les spécialistes de la Turquie que vous êtes ou qu'on a pu recevoir ces derniers temps, il a été très intriguant et très étrange d'entendre Devlet Bahçeli, le leader du MHP, appeler à la libération des cadres du PKK, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces discours-là? Quelle stratégie?
Plus d'un an après, à vrai dire, on est toujours dans l'obscurité. On n'a pas les codes. On n'a pas les codes pour vraiment comprendre effectivement pourquoi il a adopté une telle politique. Initialement, selon ses dires, là on est en octobre 2024, la guerre de Liban n'est pas encore terminée. Donc pour lui, l'inquiétude, la principale source d'inquiétude, c'est que les Kurdes soient manipulés, je le cite, par l'impérialisme et par le sionisme. Donc voilà, effectivement, faire de sorte que la carte kurde, là aussi entre guillemets, ne soit pas utilisée par l'extérieur contre la Turquie, donc renforcer, là aussi ce sont ces termes, le front intérieur. Donc du coup, effectivement, les Kurdes, là aussi on voit qu'ils ne sont pas considérés comme une communauté nationale, mais comme une carte manipulable par l'extérieur.
Toujours considérés comme des agents de l'étranger, entre guillemets, voilà. Les Kurdes en Turquie.
Et le paradoxe de la chose, c'est qu'effectivement, la dernière offensive de Ahmet al-Shara a commencé pratiquement dans les heures qui ont suivi l'accord entre Israël et le gouvernement de Damas. Un accord provisoire de sécurité qui porte sur la sécurité et qui de fait transforme, à vrai dire, la Syrie en arrière-cour d'Israël.
C'est sûr que les Kurdes se sont sentis lâchés, eux qui sans doute savaient déjà qu'ils étaient entre guillemets une sorte de carte géopolitique aux mains des grandes puissances, se le sont vu confirmer quand ils ont été abandonnés, notamment dans leur lutte contre l'État islamique. Alors ce conflit entre le pouvoir central turc et la guérilla du PKK a connu des phases d'intensité variable en 2015, après les élections législatives et les mauvais résultats de l'AKP qui avait réuni à peine 40% des voix. Les forces turques et le PKK se sont livrés à une guerre dans plusieurs villes de l'est du pays, notamment la capitale de cette région kurde, Diyarbakir.
La guerre a duré 108 jours. Un État comme la République de Turquie, doté de la 2e armée et des forces de sécurité de l'OTAN, n'a pas pu contrôler ce lieu pendant 108 jours. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a tenté d'intervenir avec des chars, des canons et des hélicoptères. C'est comme ça que l'histoire de ce lieu a été perdue aux côtés de vies humaines. La culture et la langue de ce lieu ont été perdues. Les lieux de vie ont été complètement détruits. En raison de la politisation de la population, l'État a toujours perçu ce lieu comme une menace pour lui. Par conséquent, il a toujours cherché à intervenir ici.
Un témoignage de l'ancien coprésident de la chambre d'architectes de Diyarbakir, recueilli par une équipe de France 24 dans le cadre d'un reportage, d'un documentaire qui a été diffusé à la fin du mois de novembre. Turquie, dans la ville kurde de Diyarbakir, l'espoir après la dissolution du PKK. On en entendra d'autres extraits tout à l'heure. À quoi ressemble Diyarbakir aujourd'hui, Hamid Bozarslan? En particulier le quartier historique et central de Sour qui a été considérablement visé à ce moment-là en 2015.
Le quartier de Sour a été anéanti, effectivement. A été anéanti alors que c'était protégé par l'ONU, qui faisait partie, effectivement, de la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Donc, il y a eu une très grande brutalité. Aujourd'hui, en Turquie, de toutes les manières, chaque fois qu'il y a un tremblement de terre ou une destruction de ville, on met en place une stratégie de béton. Donc, voilà, effectivement, on reconstruit des voiles, effectivement, des blocs de béton. De ce point de vue-là, la ville a perdu le cœur de la ville, en tout cas, a perdu son âme et son existence. À quoi ressemble Diyarbakır? Par contre, Diyarbakır, effectivement, aujourd'hui, est devenue une ville de pratiquement 1,5 million d'habitants, alors que la ville n'avait qu'une centaine de milliers d'habitants il y a encore 40 ans. J'ai parlé des destructions des villages. Les villageois dans les villages ont été anéantis, se sont réfugiés en grande partie à Diyarbakır. La ville est très, très dynamique. Il y a une grande vie culturelle, des théâtres qui se mettent en place, des cercles de socialisation, des maisons d'édition qui commencent à voir le jour, des chaînes de télévision, des centres de recherche. Donc la ville connaît une très grande misère, mais aussi un immense dynamisme intellectuel et culturel.
Est-ce que c'est un dynamisme entre guillemets kurde? C'est difficile de qualifier un dynamisme. Et où est-ce que toutes les nouveautés d'Diyarbakır viennent de l'État central turc pour, entre guillemets, décurdifier.
Non, rien ne vient de l'État central.
D'accord.
Non, rien ne vient de l'État central. Au contraire, on a l'impression qu'aujourd'hui, la Turquie insiste beaucoup sur le terrorisme kurde. Le problème, en réalité, vous n'avez non seulement pas d'action violente, hein, vous n'avez pas d'action clandestine non plus. Les Kurdes prennent énormément de risques et agissent constamment à visage ouvert. Et toutes ces initiatives-là dont je parlais sont des initiatives qui sont menées à visage ouvert en prenant énormément de risques. Donc c'est vraiment la créativité de la société kurde elle-même. Ça montre aussi effectivement que l'exode rural est désormais largement dépassé, qu'il y a de la deuxième ou troisième génération d'urbanisés. Qui disposent effectivement d'autres ressources, mais qui ont aussi d'autres attentes. Au Kurdistan de Turquie, vous voyez ça, notamment à Diyarbakır, mais pas uniquement à Diyarbakır, vous avez à la fois une transmission intergénérationnelle. Ça veut dire que les plus vieux militants aujourd'hui qui ont connu la prison, la répression, ont 80-85 ans, et les plus jeunes ont 15-20 ans. Et donc vous êtes à la fois dans la transmission et dans la discontinuité. À la fois, il y a quelque chose qui est légué en héritage de génération en génération, et de l'autre côté, chaque génération invente ses propres langues de créativité.
Ces régions étaient rurales à 75% en 1980, aujourd'hui elles le sont à 20-25%. La structure de la société kurde a radicalement changé, et c'est pour ça, Hamid Bozarslan, que vous attachez à dire combien aujourd'hui la lutte armée n'est plus à propos. En tout cas, cela reste une forme d'idéologie des années, enfin d'idéal des années 80 de lutte anti-impérialiste et anti-colonial. Le climat aujourd'hui est différent. Les réseaux ne sont plus clandestins quand on critique, c'est à visage découvert. Et ce journaliste Özgür Ahmet, rencontré par France 24, par exemple, en a fait les frais. Il est également à Diyarbakır.
La société turque est étrangère à la notion de paix, car elle n'en a pas réellement fait l'expérience. Chaque période où l'on évoque la paix semble plus difficile que la précédente, et la situation dans laquelle nous sommes devient en réalité plus complexe que celle de la guerre. La paix ne se décrète pas d'un simple mot, ni avec une signature. C'est tout un processus, un état d'esprit, une mentalité. Nous sommes des millions à vouloir une solution pacifique. On aspire à la fin de ce conflit armé qui dure depuis des décennies, justement parce qu'on sait ce que la guerre nous a coûté.
La paix ne se décrète pas avec une signature, elle ne se décrète pas non plus avec ce discours de Ceylan qui date d'il y a un an, qui avait pourtant été considéré au moment où il a été prononcé et relayé, surtout par les députés kurdes qui lui avaient rendu visite la veille en prison, qui ont convoqué des journalistes, de nombreux journalistes dans un hôtel du centre d'Istanbul et qui ont relayé ce discours de Ceylan, ce message à la fois en kurde puis en turc. Tous les groupes doivent déposer les armes et le PKK doit se dissoudre. On sait ce qu'il a dit au Ceylan. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit à ce moment-là, Hamid Bozarslan, et qu'il faut apprendre avec vous à déchiffrer?
Alors, ce qu'il n'a pas dit, c'était ce que la Turquie souhaitait qu'il dise. Ça veut dire, j'ai créé une organisation terroriste, j'étais un terroriste, mon organisation était terroriste, et maintenant on en finit avec le terrorisme.
Ça, il ne l'a pas dit, en effet.
Ça, il a refusé de le dire. Au contraire, il a rappelé qu'effectivement, le contexte dans lequel le PKK a été créé, c'était le contexte des années 60-70, mais aussi qu'il y avait la question kurde en Turquie, que si le PKK avait émergé, c'est qu'il y avait effectivement une longue période de négation de faits kurdes, de la répression. Donc, il a insisté sur la légitimité de la cause kurde en tant que telle.
En parlant du XXe siècle, voilà, c'était la centre de son discours.
Voilà, XXe siècle. C'est-à-dire qu'effectivement, ce négation de soi, cette condamnation de soi, de son héritage, que Erdogan attendait de lui, il n'a pas dit. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, c'était une démarche extrêmement importante. Et puis, je crois qu'il y a un deuxième point qu'il faudrait souligner, c'est que pour la Turquie, la question kurde peut être résolue ou dissoute dans la fraternité islamique des Arabes, des Kurdes et des Turcs. Donc dire effectivement, après tout, vous êtes kurde, donc vous êtes comme nous, vous êtes musulman, et donc il n'y a pas de question kurde.
C'est ce que dit Erdogan, par exemple, la fraternité islamique.
Voilà, effectivement, alors que pour les Kurdes, voilà, effectivement, la question kurde, c'est comme la question catalane, comme la question québécoise, comme la question écossaise, c'est pas parce que les Britanniques sont chrétiens que la question écossaise cesse d'exister. Et donc, du coup, ce refus de se dissoudre dans une communauté islamique, d'autant plus qu'effectivement, pourquoi exclure les Arméniennes, qui ont connu quand même un génocide en Turquie, les Grecs qui ont connu un génocide, et s'il y a une fraternité, est-ce que cette fraternité ne devait pas se faire sur la base de la justice, sur la reconnaissance des crimes passés et sur les attentes qu'il faut exprimer, développer, négocier ensemble?
Vous avez entendu ce journaliste dont on a diffusé l'extrait du témoignage, il dit que cette période de paix est presque... Enfin, de rôle de paix, en fait, est presque plus difficile à manier, à comprendre que quand on est en guerre. Ce sont à peu près ces mots, sans vouloir les déformer. Hamid Bozarslan, comment est-ce qu'on peut comprendre avec le recul que chaque phase de conflit entre le pouvoir central turc et la guérilla du PKK baisse parfois en intensité par période, regagne en intensité ensuite? Est-ce qu'il y a des paramètres qui ne sont pas kurdo-kurdes, qui nous échappent, des enjeux politiques à Ankara?
Il y a des enjeux politiques à Ankara, et je crois qu'effectivement il y a cette idée que la turcité doit dominer. Je crois qu'on peut mentionner par exemple le processus de paix en 2013-2015, et le discours d'Erdogan était celui-ci: nous reconnaissons aussi que nous avons été injustes par rapport à vous, mais maintenant que cette reconnaissance a eu lieu, il faudrait que vous vous mettiez au service de la nation turque et sunnite, en interne comme en Syrie. Et c'est parce que les Kurdes ont refusé ce chantage que une nouvelle politique, une période de répression a commencé. Et le parallèle est vraiment très frappant avec le génocide des Arméniennes. On n'est pas du tout le même contexte, il n'y a pas eu de génocide en 2013-2014, mais en 1914, le discours de l'État turc ottoman de l'époque était « Nous vous reconnaissons, vous les Arméniennes, il y a eu même des injustices à votre égard, mais maintenant que nous avons réalisé cet acte de reconnaissance, il faudrait que vous vous mettiez au service de la nation turque, notamment dans le contexte de la Première Guerre mondiale qui commençait. » Et c'est le refus des Arméniens qui voulaient refonder l'Empire ottoman sur d'autres bases égalitaires qui a été l'un des facteurs déclencheurs de génocide. Et en 2013-2014, les Kurdes n'étaient pas du tout dans une stratégie séparatiste ou sécessionniste, mais voulaient repenser la Turquie ensemble avec la Turquie, avec les Turcs. Voilà.
Les Kurdes qui, de toute façon, savent que ce processus a quand même relativement peu de chances de porter ses fruits, puisqu'ils ne sont pas les seuls aujourd'hui à être les victimes ou la cible de la répression de Recep Tayyip Erdogan contre tout ce qui ressemble à l'opposition. Le grand parti d'opposition, le CHP, a vu sa principale figure, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, être jeté en prison. Ça fait maintenant près d'un an qu'il y est, on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans Culture Monde. Donc les Kurdes savent que ils ne sont pas les seuls à être visés, et en plus ils représentent pour Erdogan tout ce que vous venez d'expliquer, une atteinte à l'État-nation, une menace contre l'État central. Les Kurdes qui, comme des militants d'extrême-gauche d'ailleurs dans les années 90, étaient déjà la cible de répression, et leurs mères, sœurs, parfois parentes, femmes, aujourd'hui continuent à transmettre leur mémoire dans des rassemblements le samedi en Turquie, les mères du samedi. On en parle juste après cet hommage qui leur a été rendu par le chanteur turc Ahmet Kaya.
gece gördüm düşümde, seni özledim anne. Elin yine ellerimde, gözlerin ağlamaklı, gözyaşlarını sildim anne. Camlar düştü yerlere, elim elim kan içinde, yanıma gel yanıma anne. İki yanımda iki polis, ellerim kelepçede, beni bul beni bul anne. Camlar düştü yerlere, elim elim kan içinde, yanıma gel yanıma anne. İki yanımda iki polis, ellerim kelepçede, beni bul beni bul anne.
Beni Bul Anne du chanteur turc Ahmet Kaya. Beni Bul Anne, ça veut dire retrouve-moi mère. C'est une chanson qui date de 95, année où s'est formé un groupe de mères du samedi, comme on les appelle aujourd'hui, un mouvement pour dénoncer les disparitions forcées des années 80-90 de Kurdes, mais pas seulement.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Pendant plus de 30 ans, ma mère n'a pas verrouillé sa porte pour que Jamil puisse entrer s'il revenait pendant qu'elle était sortie. Nous n'avons pas eu le droit de faire la moindre peinture, comme si notre maison était un monument historique, pour que Jamil reconnaisse sa maison si jamais il revenait. Ils ne se sont pas contentés de tuer Jamil. Ils ont fait disparaître son corps. Ils n'ont pas seulement pris son droit à la vie, mais aussi son droit d'avoir un cercueil et d'y être enterré avec ses parents.
Interrogé par RFI, le frère d'un disparu, Jamil, parmi les centaines d'hommes et de femmes que leurs proches ne revirent jamais dans les années 80 ou 90, on dit qu'une Ford Taurus blanche apparaissait souvent dans le paysage avant qu'un de ces hommes ou femmes soit enlevé. Toujours militants de gauche ou défenseurs de la cause kurde, les mères de ces disparus ont mêlé leur chagrin et désormais leur lutte au sein d'un mouvement appelé d'abord par les médias turcs puis étrangers les mères du samedi et qui continue à se réunir chaque week-end sur la place Galatasaray à Istanbul. Bonjour Lucie Laroche.
Bonjour Julie.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivaine spécialisée sur la Turquie et les enjeux de droits humains. Votre travail articule des questions politiques, sociales et migratoires et vous avez fait paraître l'an dernier chez l'Harmattan, mère en quête de justice de la Turquie à l'Iran, résister à l'oubli. Alors Lucie Laroche, quand ce mouvement est créé en 95, les mères du samedi, combien de personnes ont déjà disparu et qu'est-ce qui convainc leur famille que toutes ces disparitions relèvent d'une seule et même logique?
Bien sûr. Alors effectivement, en fait, au milieu des années 90, des familles turques vont commencer à se mobiliser pour dénoncer des disparitions forcées qui sont survenues dans les années 80 et 90. Et je voulais juste revenir rapidement aussi sur l'appellation de ce mouvement qu'on appelle donc les mères du samedi. Cette appellation vient du fait que des proches se rassemblent, donc également des mères, pour demander vérité et justice au sujet que ce soit de leurs enfants, de leurs frères et sœurs ou encore de leurs maris disparus. Et l'appellation de ce mouvement, elle s'inspire aussi largement du mouvement des mères de la place de Mai en Argentine, un mouvement souvent plus connu que celui des mères du samedi, qui dénonçait à cette époque-là les disparitions forcées survenues lors de la dictature militaire des années 70. Et pour répondre à votre question, effectivement, quand ce mouvement du coup va émerger, il répond vraiment à finalement toute une décennie durant laquelle les disparitions forcées ont augmenté. Ces disparitions forcées, elles ont commencé à augmenter lors des années 1980, car à cette époque-là, la Turquie va connaître un coup d'État, le coup d'État du 12 septembre 1980, qui fait suite à vraiment une longue période d'instabilité politique. Et à la suite de ce coup, une nouvelle constitution va être mise en place. C'est d'ailleurs la constitution de 1982 qui est toujours en vigueur aujourd'hui en Turquie et qui va renforcer les pouvoirs de l'armée et nettement restreindre les libertés, que ce soit politiques ou syndicales. Et c'est dans ce climat très autoritaire que toutes les formes d'opposition politique vont être fortement réprimées. Et dans ce premier temps, ce sera les militants de gauche qui seront visés par cette répression.
Militants de gauche que la Turquie associe au communisme. On est dans un contexte de guerre froide où la Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952, qui cherche à contrer l'influence croissante de groupes de gauche de plus en plus organisés. Le PKK en fait partie et des militants kurdes vont eux aussi être ciblés par cette répression. Vous vous expliquez dans vos travaux qu'une gendarmerie spéciale est même créée contre le parti, que les disparitions ont lieu surtout dans l'Est et le Sud-Est de la Turquie. Donc nécessairement, très vite, on associe ces disparitions au mouvement kurde. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, les maires du samedi sont associés à un mouvement kurde dans les discours de Recep Tayyip Erdogan. Peut-être d'abord les opposants politiques, ils sont enfermés dans certaines prisons qui ont été construites juste après le coup d'État, comme celle de Metris à Istanbul et Mamak à Ankara. Au départ, c'est là que leurs proches les cherchent ou les attendent. Comment est-ce que, encore une fois, elles vont comprendre, ces personnes, que tous ceux qui ont disparu dans leur entourage, c'est toujours lié à la même cause?
Bien sûr, donc en fait, comme vous le dites très bien, des manifestations vont commencer à avoir lieu devant ces prisons. Dans un premier temps, c'était pour dénoncer les conditions de détention qui étaient très dures. Et puis finalement, ça va être l'événement qui va être déclencheur pour la réunion de ses proches, va être la découverte du corps de deux individus, celui de Hassan Ojak et de Redvan Karakoç, qu'on va retrouver dans une fosse commune alors que leurs proches n'avaient plus de nouvelles d'eux depuis leur arrestation. Et en fait, lorsqu'on retrouve leur corps, on y trouvera des traces de torture visibles, ce qui contredira la version officielle selon laquelle ils n'avaient jamais été détenus. Et face à ce mensonge, ces deux familles vont donc se réunir, accompagnées de certains militants de défense des droits de l'homme. Ils vont se réunir pacifiquement dès le mois de mai 1995 devant le lycée de Galatasaray à Istanbul, dans le quartier de Taksim. Très connu si on a été de passage à Istanbul, qui est très central pour la ville.
Sauf que ces rassemblements vont s'arrêter à un moment, c'est en 99, ces femmes annoncent, il y a débat sur l'appellation des mères du samedi, ce mouvement tant que tel, comme si ces femmes n'étaient que des mères et pas aussi des sujets politiques, des actrices politiques en tant que telles. Vous y revenez sur ces débats dans vos travaux. En 99, elles disent qu'elles arrêtent de se rassembler pour se concentrer sur un combat juridique notamment et de sensibilisation de l'opinion. Elles reprennent leur rassemblement 10 ans plus tard, en 2009, avec quelle tolérance de Recep Tayyip Erdogan, qui est Premier ministre à l'époque?
Tout à fait. En fait, avec l'arrivée au pouvoir de l'AKP, on est dans une certaine ouverture face à la question, ce qu'ils appellent la question kurde, au point même qu'en 2011, le mouvement va être reçu par le ministre de l'époque, donc Recep Tayyip Erdogan, qui les assure à ce moment-là de sa bonne volonté de faire toute la lumière sur le sort de leurs enfants, de leurs proches, etc. Mais on va vite se rendre compte que les moyens mis en œuvre à ce moment-là seront pas convaincants, et parallèlement à ça, la situation des droits fondamentaux va se dégrader à nouveau en Turquie, et ça notamment après l'échec du coup d'État en 2016. Donc même si le mouvement va reprendre en 2009 après une pause de plus d'un an, à partir de 2016, graduellement la répression de ce mouvement va augmenter au point qu'en août 2018, lorsque le mouvement voulait célébrer son 700e rassemblement, les autorités locales vont interdire exceptionnellement ces rassemblements. Et pour donner une idée, durant cette même journée, on compte plus d'une quarantaine d'arrestations.
Et aujourd'hui, ces rassemblements sont très encadrés, ils suivent des schémas précis. Comment la police turque éventuellement intervient ou reste en vigilance ou en embuscade quand ces rassemblements ont lieu?
Alors de nos jours, on peut noter lors des rassemblements que la police est vraiment déployée tout aux alentours, tout aux abords de la place de Galatasaray pour, dans un premier temps, éviter les rassemblements. Et on compte aussi donc chaque semaine quelques arrestations. Quand on parle d'arrestations, c'est des arrestations très temporaires, mais elles sont assez massives car sur les médias sociaux, sur par exemple la page Twitter des maires du samedi, chaque semaine elles font un bilan en recensant tout le nom des personnes qui ont été arrêtées et on en compte une dizaine peut-être chaque semaine. Donc on voit que le droit de se rassembler est finalement tout un enjeu pour lequel se battent les maires du samedi.
Et est-ce qu'elles espèrent toujours retrouver leurs disparus ou est-ce qu'elles ont dû passer à une étape d'après?
Tout à fait, c'est une bonne question. En fait, les objectifs de ce mouvement ont vraiment évolué au cours du temps. Au départ, on était effectivement dans un objectif premier qui était de retrouver leurs proches. Mais étant donné qu'avec le temps, cet espoir commençait à disparaître, l'objectif s'est davantage tourné vers une quête pour la justice, parce que les procès ont commencé tardivement, seulement dans les années 2000, et aussi donc une quête pour entretenir la mémoire de leurs proches, étant donné que ces familles n'ont pas de tombe à aller fleurir, c'était aussi une façon de faire ce deuil qui était impossible à ce moment-là.
Et peut-être juste pour conclure, Lucie Laroche, on peut encore une fois débattre de la façon dont ces femmes sont désignées, mais ces mères du samedi, se sont-elles trouvées des liens en tant que mères en deuil avec un autre mouvement qui n'a rien à voir, les mères de Diyarbakir? Et on confond souvent les mouvements entre eux, y compris en Turquie. Ces mères de Diyarbakir, elles manifestent pour retrouver les enfants enlevés par le PKK. Est-ce que cet autre mouvement a été d'une certaine façon instrumentalisé par Erdogan pour servir des intérêts qu'on peut imaginer? Et est-ce qu'au contraire, les maires de la place Galatasaray et de Diyarbakir se sont trouvés des points communs et ont fini par créer des liens et lutter ensemble?
Alors, à vrai dire, de nos jours, dans mes recherches en tout cas, j'ai pas pu attester de lien particulier entre ces deux mouvements, mais vous l'avez très bien souligné. Donc ce mouvement qui naît dans les années 2009 va être très soutenu par l'État turc à ce moment-là, contrairement au maire du samedi. Pourquoi ? Parce que l'État turc avait un intérêt à soutenir ces maires de Diyarbakir, d'une part pour délégitimer les maires du samedi, en mettant du coup en avant ces maires de Diyarbakir comme les vrais maires de la nation turque, comme les vrais martyrs. Et quand on fait une brève revue de presse, on se rend compte que dans la plupart des médias pro-gouvernementaux, les maires de Diyarbakir, qui est un mouvement quand même nettement plus récent, est très souvent évoqué, tandis que le mouvement des maires du samedi est quasiment absent. Merci. Donc on voit bien que c'est une instrumentalisation du gouvernement pour mettre un mouvement en avant, pour invisibiliser un autre.
Merci beaucoup, Lucie Laroche, maire au pluriel en quête de justice de la Turquie à l'Iran. Résister à l'oubli, votre livre apparu chez L'Harmattan. Alors pour conclure, Hamid Bozarslan, cette répression des années 80-90, elle a continué. Et d'ailleurs, quand l'Organisation mondiale contre la torture parle de 1352 disparitions forcées, elle les fait commencer en septembre 80 lors du coup d'État et finir en mai 2020. Est-ce qu'on a, et peut-être encore le décompte continue, on ne sait pas, on n'a pas encore les chiffres, mais est-ce que quand il y a un an, Öcalan a appelé les combattants du PKK à déposer les armes et que Erdogan et l'extrême droite turque ont dit on entame un processus, est-ce qu'on a fait semblant d'y croire dans un pays qui de toute façon vraisemblablement n'est pas démocratique au sens où on l'entend?
Non, je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, il y a énormément de prudence. Vous avez mentionné effectivement le maire d'Istanbul. Alors, le procureur a requis 1342 ans de prison contre le maire d'Istanbul, qui vient d'être accusé aussi d'espionnage. Donc, effectivement, vous êtes dans un contexte où la répression continue, où il y a un processus qui peut potentiellement déboucher sur la poutinisation de la Turquie, ça veut dire sur la criminalisation de l'opposition, y compris de l'opposition turque. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faudrait sans doute tirer les leçons de l'Espagne de 1975-1978, après la mort de Franco et la période de démocratisation. Durant cette période-là, d'une part, la démocratie a été présentée comme une cause légitime, servant de thème fédérateur entre la droite et la gauche, y compris le Parti communiste. Et de l'autre côté, on a légitimé la cause catalane et la cause basque comme des questions nationales. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la Turquie a besoin d'une double légitimation, à la fois de la question kurde et de la question de la démocratie en Turquie elle-même.
Merci beaucoup, Hamid Bozarslan. Histoire des Kurdes, des origines à nos jours, l'un de vos ouvrages parmi les derniers apparus aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Aux États-Unis, Catherine, l'intelligence artificielle divise le camp républicain.
Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est la dernière figure en date à défier l'administration Trump, analyse le Financial Times et Fox 13, alors que des élus républicains prennent aussi leur distance avec le président sur sa politique migratoire, ses ambitions à l'étranger, ses attaques contre la réserve fédérale, énumère le Washington Post. Donald Trump a signé en décembre un décret menaçant de couper les fonds fédéraux aux États qui adoptent des réglementations en matière d'intelligence artificielle, une mesure saluée par le secteur, mais décriée donc donc par un nombre croissant de républicains, souligne le Washington Post, tels que le sénateur du Missouri, Josh Hawley, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Il critique le soutien indéfectible de Trump aux géants de la tech au détriment de l'autonomie des États. Tandis que Marjorie Taylor Greene est sortie, elle, du culte MAGA, not MS Now, elle n'a pas de mots assez durs aujourd'hui, relève CNN et The Hill, contre la priorité accordée par l'administration de Trump aux gros donateurs qui pèsent sur la politique actuelle. Ron DeSantis s'érige, lui, contre les intérêts cachés derrière l'intelligence artificielle et contre les dangers en matière d'emploi et de santé mentale.
We have a responsibility to create a framework so that
Nous avons la responsabilité de créer un cadre pour que cette technologie soit canalisée de manière à bénéficier aux habitants de l'État, a déclaré Ron DeSantis hier lors d'une conférence de presse relayée par Fox 13 et WFLA News. De nombreuses propositions visent à subventionner cette révolution de l'IA pour des centres de données, des allègements fiscaux, etc. Mais il est important de se demander que subventions-nous réellement, a demandé le gouverneur de Floride, entrer en dissidence selon le Financial Times. Ron DeSantis qui songerait d'ailleurs à se représenter à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2028. Mais avant cela, des élus républicains s'inquiètent pour les élections de mi-mandat en novembre prochain. L'IA et ses centres de données énergivores font grimper les prix de l'électricité, analyse le Washington Post, et la flambée des factures a aussi un coût politique, confirme le Financial Times. Le journal s'est rendu dans le Midwest, à Springfield, dans l'Ohio, dans l'usine familiale de Ross McGregor, où les machines martèlent, façonnent et soudent le métal pour fabriquer des pièces destinées aux voitures, aux exploitations agricoles et aux centrales électriques. Cette entreprise est en difficulté aujourd'hui à cause de la flambée des prix de l'énergie. En un an, les industriels de l'Ohio ont vu leurs factures grimper de près de 20%, alors que Donald Trump avait placé la politique énergétique, le retour de l'industrie et le pouvoir d'achat au cœur de sa campagne présidentielle, rappelle le Financial Times. Près d'un tiers des Américains ont des difficultés à payer leurs factures d'électricité, ajoute le quotidien britannique. Certains vont même jusqu'à s'endetter, alerte CBS News. Ces centres de données pour l'IA s'installent aussi dans des régions où l'eau se raréfie, ce qui provoque des tensions avec le voisinage, ajoute le magazine Rolling Stone et NBC News. Les démocrates veulent faire campagne sur ce thème de l'énergie pour les élections de mi-mandat, note le Washington Post et le Financial Times, pour gagner des voix dans la classe ouvrière, notamment l'école bleue, auquel le ministère du Travail promet, lui, une aube nouvelle.
C'est l'un des ministères, d'ailleurs, celui-ci, qui multiplie les références au nazisme.
Dans les messages publiés sur les réseaux sociaux, analyse le magazine The Atlantic. Le mois dernier, le ministère du Travail a publié une vidéo avec la légende « Une patrie, un peuple, un héritage », ce qui rappelle la formule nazie « Ein Volk, ein Reich, ein Führer », relève aussi le Guardian et The Atlantic. Par ailleurs, la Maison-Blanche a publié sur X un dessin montrant deux attelages de traîneaux groenlandais tirés par des huskies, suggérant de choisir entre un chemin vers le giron états-unien avec une image de ciel bleu au-dessus de la Maison-Blanche ou bien direction la Grande Muraille de Chine et la Place Rouge en Russie, le tout dans une nuit orageuse. L'image était accompagnée d'une simple question « Which way, Greenland man ?» Quel chemin groenlandais ? À première vue, ce tweet semble refléter le désir du président Trump d'annexer le Groenland, territoire autonome danois, explique El País, mais ce journal espagnol et The Atlantic y ont reconnu une référence au livre « Which way, Western man ? Quel chemin ?» Homme occidental, écrit par le néo-nazi William Gailey Simpson. Le département de la sécurité intérieure y a également fait allusion, ajoute The Atlantic, dans un message sur Instagram pour inciter à rejoindre les rangs de l'ICE. Des références au nazisme, aux suprémacistes blancs, des actes aussi contre lesquels des centaines d'habitants de Minneapolis manifestent toujours, alors que 700 policiers de l'immigration vont quitter la ville, annonce de Minnesota Star Tribune après la mort d'Alex Pretty et de Rene Good. Résistance sonore. Des centaines de personnes protestent sous les fenêtres des hôtels qui hébergent les agents de l'immigration. Des sifflets, des bruits de casseroles jusqu'à 2h du matin, décrit le Minnesota Reformer, pour empêcher les agents fédéraux de dormir. Les manifestants reprennent aussi Killing in the Name de Rage Against the Machine.
Merci Catherine Dutu.